suite dans les idées, Sylvain Bourmont. La France périphérique, titre d'un essai du consultant Christophe Guillouy, cette expression s'est installée grâce aux médias et en dépit de la réfutation unanime des chercheurs. Alors il faut le dire et le redire, la France périphérique ne recouvre rien, ne veut rien dire, la France périphérique n'existe pas. C'est de France périphérique au pluriel qu'il convient de parler si l'on veut se donner la peine de comprendre quelque chose. Et c'est de deux France périphériques dont nous parlerons cette semaine à la suite dans les idées, avec d'une part le sociologue Benoît Coquart et ensuite avec la romancière Julia Deck. Bonjour Benoît Coquart, vous êtes sociologue, vous êtes chercheur à l'Institut National de la Recherche Agronomique, à l'INRA, ce qui nous donne un petit indice de vos objets. On se doute qu'un sociologue qui travaille à l'INRA travaille sur, d'une certaine façon, des choses qui ont à voir avec le monde agricole. Et c'est bien le cas, puisque vous publiez aux éditions La Découverte, ceux qui restent, sous-titre « Faire sa vie dans les campagnes en déclin ». Ces campagnes en déclin, vous les connaissez bien, parce que vous en venez et vous y êtes revenu, au fond, pour mener une longue enquête qui permet de mieux comprendre ces coins paumés, comme disent, entre guillemets, un certain nombre de ceux qui y vivent, de ceux qui n'y vivent pas et les connaissent mal, parce qu'ils en ont des représentations médiatiques assez déformées. Ces campagnes en déclin, on les a vues beaucoup dans l'actualité ces derniers temps, ce qui fait que votre enquête, qui n'a pas attendu ce mouvement pour exister, vous décidez de l'ouvrir, enfin le livre qui résulte de l'enquête, vous décidez de l'ouvrir par un chapitre consacré au gilet jaune, Benoît Coquart. C'était une évidence de commencer par là, et en même temps, c'est un prisme, mais il ne faut pas s'en tenir là si on veut comprendre vraiment les choses.
Oui, tout d'abord, merci pour cette mise au point, je pense qu'il est bien vu sur la notion de France périphérique, et l'introduction du livre, le premier chapitre qui enchaîne effectivement avec les gilets jaunes, il avait pour objectif de montrer ce qui, finalement, dans un mouvement qui paraissait survenir de nulle part, qui a interrogé beaucoup de personnes, on avait en fait des phénomènes sociaux, structurels de long terme que, pour ma part et avec d'autres chercheurs aussi, j'avais pu observer en fait sur le temps long. Alors il y en a plusieurs, je pourrais les citer rapidement. Tout d'abord, il y avait cette omniprésence de la voiture. C'est pas pour rien si on est parti sur le carburant. On pourra voir dans le livre, il y a effectivement des jeunes adultes, femmes et hommes dans la trentaine, qui se plaignent du fait que tout est loin, là où ils vivent. C'est-à-dire que dans les campagnes en déclin, il y a un retrait de l'État qui fait que les services publics sont de plus en plus loin. Je prends l'exemple d'une jeune employée, Vanessa, qui m'explique comment elle va à la crèche, puis à l'école, puis à son lieu de travail, puis au supermarché, et comment tout est séparé par des dizaines de kilomètres, et ça l'oblige à prendre sa voiture sans arrêt. Donc c'était tout un style de vie qui était menacé, qui est finalement celui des classes populaires rurales, qui ont un budget relativement limité et pour qui l'essence est important. Ensuite, il y avait aussi, dans le mouvement des Gilets jaunes, en tout cas dans ce que j'en ai observé les premiers jours, une véritable quête d'appartenance à un groupe, l'envie de refaire groupe, d'être soudé.
Et ça, c'est de dire nous,
de pouvoir dire nous, de pouvoir dire, comme disaient les Gilets jaunes rapidement, et aussi les enquêtés, on va le voir dans la vie quotidienne, la famille, la bande, le petit clan, etc. C'est-à-dire de se sentir appartenir à un groupe qui nous valorise, où on a une place, où on est quelqu'un de reconnu. Et ça, il m'a semblé que c'était au cœur du mouvement, et c'est même ce qui a assez conditionné la pérennité en fait des barrages point par point. Ensuite, il y avait aussi dans le mouvement d'emblée ce qui a pu surprendre pas mal d'intellectuels autour de moi. J'ai entendu quelques critiques vis-à-vis de ça. Il y avait des affinités transclasses, il faut le dire. Il y avait parmi surtout au début du mouvement des artisans, des petits entrepreneurs et des ouvriers, des employés, des jeunes femmes précaires. Et en fait, ces affinités-là, on les retrouve au quotidien en milieu rural. Moi, je m'appuie beaucoup sur la notion d'espace social de Pierre Bourdieu, et j'ai publié dans un numéro de la revue Politique ce qui était consacré à ce qu'on appelle le bas à droite de l'espace social. Et ce bas à droite, en fait, c'est tous ces gens plus ou moins dotés en capital économique, mais surtout peu dotés en capital culturel, c'est-à-dire qu'ils ont fait peu d'études. Et au quotidien, ils ont des goûts, des affinités qui les rassemblent et qui les font se penser unis les uns aux autres.
On va voir d'ailleurs la question de la distance à l'égard de l'école, à l'égard des diplômes, à l'égard du cursus scolaire et capital pour comprendre beaucoup de choses dans cet univers, Benoît Coquart. Alors, oublions les gilets jaunes, on va pas quand même faire comme si ça permettait de comprendre les choses. C'est l'inverse en fait que votre livre permet de comprendre, c'est-à-dire que c'est grâce à une enquête démarrée bien avant qui insiste sur des tendances longues, sur des phénomènes sociaux complexes qu'on peut comprendre certaines des particularités des gilets jaunes. Il ne faudrait pas retourner le sens de la relation. Alors revenons sur ce territoire dont vous êtes parti. Vous êtes parti parce que vous avez des diplômes, j'imagine, parce que c'est vraiment l'une des choses que l'on apprend dans votre livre, c'est que plus on a de diplômes, plus on a de chances de partir.
Plus on a de diplômes, plus on vit loin de chez ses parents. C'est une loi sociologique assez immuable. Et donc oui, il est vrai que la trajectoire typique d'un sociologue, donc moi je viens des milieux ruraux, milieux populaires ruraux, j'ai une trajectoire qui est assez à la fois commune, mais aussi assez différente de ceux de ma génération et notamment de mon genre, parce que vu qu'on est sur des territoires très majoritairement peuplés par les classes populaires, ceux qui partent, c'est surtout celles qui partent, donc des jeunes femmes de milieux populaires qui partent faire des études avec la massification de l'enseignement supérieur. Et pour notamment ces étudiantes que j'ai interviewées dans le début du livre, on voit bien qu'elles veulent revenir, mais que c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que en fait, l'emploi, le marché du travail rural est essentiellement composé de là où elles viennent, dans les cantons dépeuplés du Grand Est, d'emplois considérés comme masculins. Ou alors d'emplois féminins, mais bien plus précaires. C'est-à-dire qu'on est sur le secteur du care, l'aide à la personne, aux personnes âgées, dans des emplois à temps partiel. C'est pas pour rien non plus, moi j'essaye d'insister un petit peu là-dessus, qu'on retrouve des taux de chômage qui sont souvent le double, voire le triple dans certains bourgs que j'ai enquêtés, des jeunes femmes par rapport aux jeunes hommes. Parce qu'en fait, il y a moins de perspectives d'emploi pour elles. Et c'est quelque chose que ça, les enquêtés ont tous en tête. Ouais.
Alors, vous avez mené une enquête ethnographique sur le temps long et vous avez y compris retrouvé des lieux que vous connaissez bien, des gens que vous connaissez bien, ce qui pose des problèmes de méthode particuliers. La première réaction de beaucoup des gens auxquels vous vous êtes adressé, ça a été une réaction de surprise. Ces gens se demandaient bien pourquoi ça pouvait être intéressant de s'intéresser à eux.
Je pense que il y a une difficulté. C'était là, on me disait d'emblée, qui va lire un bouquin qui parle de nous, parce que effectivement les jeunes adultes de classe populaire rurale sont peu habitués à se voir représentés dans les médias, dans les livres. C'est dit, qui peut s'intéresser à nous ? Tu devrais parler d'autres personnes. C'était aussi l'idée que je m'intéressais plutôt aux ouvriers, aux employés, alors qu'à l'habitude, ceux qui sont censés représenter ces espaces ruraux, c'est les notables locaux, c'est les élus. C'est ceux qui, d'ailleurs, aujourd'hui adhèrent assez fortement à la théorie de la France périphérique, puisque en fait, les dominants locaux en faisant leur cette opposition ville-campagne, ils se mettent dans la position des dominés. C'est-à-dire que les rapports de classe, les rapports de domination locaux, on ne les voit plus. On dit qu'ils sont seulement entre la ville-centre, Paris, etc., les grandes métropoles, et les espaces dits périphériques. Et moi, j'avais en fait... je pense que le fait de venir de ces endroits, c'est aussi une injonction à redonner la parole à ceux qui sont... comme dirait Bourdieu, encore une classe objet, c'est-à-dire qu'ils sont parlés par d'autres, mais eux ne parlent pas. Et cette envie, elle venait aussi de la méthode, c'est comme vous l'avez dit, c'est l'enquête ethnographique sur le temps long. Et là, c'est pas pour rien, je publie dans une collection L'Envers des Faits, qui en fait permet de faire de l'ethnographie, pas seulement comme une illustration, comme une manière de donner de la chair à des résultats statistiques ou à des catégories d'analyse plus vagues qui seraient voilà les classes populaires. Là, c'est vraiment l'idée de montrer que quand on fait de l'ethnographie, dans tous ces territoires que les théories de la France périphérique et d'autres nous présentent comme repliés, gagné par l'individualisme grandissant, où tout le monde penserait pareil, etc. Ben là, en fait, quand on se rend compte que les gens se fréquentent énormément, qu'il y a beaucoup d'alliances et aussi de concurrence, je pense qu'on renverse en fait le point de vue. D'emblée, on a une démarche critique rien que par le fait d'aller voir ce qui se passe ici. Mais encore faut-il arriver à voir cette réalité-là, quoi.
Alors vous inscrivez dans une tradition qui est celle par exemple de Michel Pialoux, pour citer le nom d'un grand sociologue qui était l'invité récemment de cette émission. Vous travaillez aussi donc sur des dynamiques sociales, sur des temporalités, parce que ce qui est frappant dans votre livre, c'est de voir à quel point vous avez affaire à des groupes de gens qui ont vieilli ensemble, qui ont grandi ensemble. Certains sont partis, d'autres sont restés. Parmi ceux qui sont restés, certains ont réussi à s'insérer professionnellement ou à se marier ou à fonder une famille. D'autres ont connu davantage de difficultés pour trouver un emploi. Et donc, au-delà des relations de sociabilité fortes, il peut y avoir aussi des tensions, des concurrences, des choses qui sont difficiles à vivre. Vous essayez de rendre compte de tout cela dans le livre.
Oui, j'ai voulu en fait, ça c'est l'intérêt de l'enquête ethnographique, on peut croiser les points de vue que les uns ont sur les autres et voir comment il y a différentes petites strates en fait qui se forment au sein d'un même large groupe d'interconnaissances. Et tout d'abord, ce qui apparaît, c'est que c'est des territoires à la fois relégués, où il est vrai, on a des situations de grande précarité, des problèmes d'addiction à la drogue, par exemple, ou d'autres problèmes sociaux qui sont assez méconnus, finalement, et aussi des figures de réussite sociale populaire. C'est-à-dire que on peut être peu diplômé et pour autant être considéré localement comme quelqu'un qui a réussi sa vie, qui a tous les attributs de la femme ou de l'homme accompli. Et ça, il me semble que ça tient au fait que les espaces ruraux, notamment les campagnes en déclin sur lesquelles je travaille, elles perdent des habitants, il y a de moins en moins de monde qui habite, etc. Mais ça laisse des marges de manœuvre, notamment aux classes populaires, pour encore adhérer à des normes qui, sur d'autres scènes sociales, seraient dévalorisées. Et ça, je pense que c'est important à comprendre pour ne pas retomber dans les travers de la mentalité supra-individuelle qui voudrait qu'ils soient tous des petits blancs en insécurité culturelle. Et ça, là encore, je pense que c'est parce qu'on projette toujours avec finalement une forme d'ethnocentrisme urbain, ce qu'on veut dire d'eux, et on leur met dans la tête en fait des comportements qui ne sont pas les leurs. En fait, moi j'ai rencontré beaucoup d'attitudes de fierté, de même de contradiction, par exemple au fait de faire des études longues qui étaient vues comme des choses inutiles, puisque on pouvait, pour certains, encore réussir sa vie localement sans passer par la case départ vers les études et en restant en fait quelqu'un qui est bien dans son autochtonie.
À propos du temps et de l'inscription historique de l'enquête, il y a une chose frappante, et vous y consacrez un chapitre, c'est la manière dont des gens de votre génération vivent l'histoire récente, et notamment l'histoire de leur père. Ils la vivent sur le mode du contraste saisissant, comme les belles années, la belle époque, on parle là des années 70. Et il y a une sorte de mythe d'un âge d'or révolu, du temps où ces campagnes portaient beau, ou je sais pas, où les individus étaient plus libres.
Bien sûr, et ça c'est, je pense que le rapport à la nostalgie, à un certain c'était mieux avant, il n'est pas d'ailleurs caractéristique que de ces campagnes-là. On le retrouve dans différents quartiers populaires, même dans les cités, on retrouve des discours un petit peu de la même manière sur une solidarité qui se serait perdue, mais surtout sur une forme de dynamisme et de liberté de l'usage de l'espace. On pouvait faire ce qu'on veut, il y avait moins de gendarmes, on croisait beaucoup de nouvelles têtes. Ça, c'est ce que racontent les pères à leurs enfants, parce que c'est très genré.
On pouvait conduire sa voiture en ayant bu.
Voilà, ça c'est un gros truc qui revient beaucoup et qui, je pense, exprime aussi ce que les nouvelles générations essaient d'être. C'est-à-dire que moi j'enquête sur des cantons où il y avait une trentaine de bars dans les années 70, il n'y en a plus que deux ou trois aujourd'hui. Donc l'idée qu'il y a moins de vitalité de la vie sociale, c'est pas qu'une représentation de l'esprit, c'est un fait. Mais derrière, eux, ils essayent d'avoir en fait des stratégies de vie qui permettent de promouvoir encore ces manières de se fréquenter ensemble, comme ils disent, ils se rencontrent chez les uns les autres sans cesse, plusieurs fois par semaine, et on est très attaché au fait d'avoir des vrais potes sur qui compter. Par contre, ce qui a changé par rapport à leur père qui racontait oui, nous on fréquentait un peu tout le monde, finalement tous les gars de l'usine ou alors tous les gars du club de foot, il y avait des structures en fait collectives qui permettaient de se sentir appartenir même à niveau local. Je veux dire, on avait possiblement une identité villageoise. Aujourd'hui, c'est plus ça. On appartient à des groupes d'amis plus larges. Vu que la vie s'est disloquée, vu qu'on travaille tous aux quatre coins d'un département, voire dans le département d'à côté, finalement, on connaît ceux d'ici. C'est un périmètre très vague, c'est plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, qu'est-ce qui nous rapproche? C'est une nouvelle petite structure informelle qui est la bande d'amis, le clan. Et c'est par là, souvent, que les enquêtés ont trouvé leur travail, ont pu rencontrer, évidemment, leur conjointe ou leur conjoint. Et c'est par là aussi que vous y faisiez référence, qu'on devient des hommes, qu'on devient des femmes ensemble dans des modèles de conformité qui permettent d'être valorisés avec une certaine assurance qu'on ne fait pas fausse route en fait, puisqu'on fait comme les autres et puisqu'il n'y a pas de contre-modèle qui s'impose. Les étudiants, ils sont pas là. Moi, j'enquête pas sur des campagnes avec des néo-ruraux qui viennent contredire, je sais pas, par exemple, la pratique de la chasse ou quoi que ce soit. Donc, on est sûr de son style de vie.
Alors, cette nostalgie dont vous parliez, que vous avez remarqué, elle est principalement, mais même quasi exclusivement masculine. Il y a une forme de nostalgie féminine, mais qui renvoie davantage aux années d'adolescence de ces mêmes femmes, non pas à leur mère.
Oui, tout à fait. C'est très genré, en fait, cette question de la nostalgie. Et dans le livre, moi, je me suis intéressé à la manière dont se formaient notamment les groupes d'amis et par ricocher les couples. Et on se rend compte qu'en fait, souvent, les jeunes femmes, elles entrent plus tard sur le marché du travail, dans des conditions souvent plus précaires. Elles ont moins de ce qu'on appelle en sociologie rurale le capital d'autochtonie. Donc, c'est moins elles qui vont décider de rejoindre le groupe d'amis. Elles vont suivre, en fait, leur nouveau conjoint dans sa bande, souvent dans son village d'origine. Et elles vont se retrouver, certaines l'expriment comme ça, comme des pièces rapportées. D'autres restent, évidemment, là, elles arrivent à mieux s'imposer, mais certaines se trouvent un petit peu mises à l'écart, et donc elles n'ont pas, quand elles parlent avec leur mère aussi, elles n'ont pas cette évidence que du 7e lieu avant. Elles regrettent plutôt une période beaucoup plus récente, qui est la période de l'adolescence, avant les mises en couple, et où elles étaient dans leur village d'origine, dans des bandes beaucoup plus mixtes, où elles n'étaient pas en fait cantonnées à des rôles plus genrés.
Mais là, ça, c'est plus un effet d'âge qu'elles regrettent qu'un effet de génération.
Oui, et puis d'ailleurs, cet effet d'âge, on le retrouve. Moi, j'ai pu suivre mes enquêtés longtemps, du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les mises en couple à la vingtaine, il y a cet effet-là de se sentir comme une pièce rapportée. Et puis quelques années après, il y a des solidarités féminines qui se sont remises en place au sein même des groupes d'amis. Enfin voilà, on reconstruit en fait des appartenances genrées à chaque fois.
Benoît Coquart, vous êtes aussi intéressé pour cette enquête à ceux qui partent, à ceux qui sont partis. Le livre s'appelle « Ceux qui restent » parce qu'il s'intéresse principalement à ceux qui ont choisi ou en tous les cas sont restés habités dans ces campagnes en déclin. Mais je ne sais pas d'ailleurs quelle est la proportion de ceux qui partent sur les territoires qui vous ont...
C'est un peu compliqué d'estimer, mais on dit à peu près un tiers de génération part sans retour, ce qui est assez massif. Hein, c'est comparable à l'exode rural d'après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce qui fait, là encore, qu'on renforce un entre-soi populaire. En fait, là, par exemple, on s'était étonné de la sociologie du mouvement des Gilets jaunes. Elle est assez évidente, en fait, quand on voit qu'il a émergé depuis ces territoires-là. En fait, c'est juste la population locale aussi qui est à cette image, essentiellement d'ouvriers et d'employés. Et ce qui fait que le départ aussi de des mieux dotés socialement, finalement ceux qui ont un peu de capital économique, un peu de capital culturel, va faire que les concurrences qui sont sur le marché de l'emploi local à taux, donc il y a peu de boulot, on attend que quelqu'un parte à la retraite pour avoir un poste, elles se forment souvent entre semblables. Et c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on ne peut pas être à la fois... On se sent bien dans son style de vie parce qu'il est conforme, tout le monde le partage, mais aussi on a le sentiment qu'on ne peut pas être uni avec tous, que la solidarité de tous avec tous, ça reviendrait à être, comme disait souvent, des bisounours. Parce que, en fait, je prends l'exemple dans le livre, hein, il y en a plusieurs, mais de deux ouvriers plombiers qui se retrouvent en concurrence alors que c'est les meilleurs amis pour un emploi d'ouvrier communal, et ça va se régler forcément par recommandation, par piston, comme on dit. Et donc la rancune et la jalousie qui va s'en suivre les oblige à ne plus faire partie des mêmes groupes d'amis, à avoir des inimitiés, et tout le monde est obligé de prendre part à ça. Donc à la fois cet entre-soi, il est protecteur, mais puisqu'il est dans une situation où le marché du travail il y a eu la désindustrialisation et où il y a peu d'emplois publics qui se créent, en fait, il peut exacerber les petites tensions, les petites différences entre des personnes très proches socialement.
Alors, on a peu parlé politique jusqu'à présent, Benoît Coquart. Ça veut dire que on parle peu de politique dans ces espaces?
Non, la politique, pour le coup, elle est assez présente. Il suffit de pas c'est comme souvent en sociologie, il suffit de pas s'arrêter au vote, en fait. Parce que, bon, moi, j'enquêtais essentiellement sur des trentenaires, des vingtenaires. Donc, c'était des personnes qui pouvaient parler de politique, mais qui allaient peu voter. Et le point de vue, il est vrai que j'ai le plus rencontré, enfin, que certains affichaient le plus fièrement, c'était d'être plutôt en affinité avec l'extrême droite, se dire 100% Le Pen ou pour Le Pen, c'est pas un tabou. On est de toute façon dans plusieurs cantons où j'enquête, dans des terres déjà depuis les années 90, assez conquises finalement par l'extrême droite et la droite conservatrice, hein, dans un glissement vers la droite.
L'histoire politique est très à droite quand même, de toute façon, dans cette région.
Oui, tout à fait. Et donc on pense, en fait, et c'est ce que réclament les journalistes souvent qui sont venus après les élections pour faire des micro-trottoirs dans les villages que j'ai pu fréquenter, on voit tout de suite des gens qui se déclarent favorables au Front National comme une manière quasiment de dire je ne suis pas comme les chômeurs qui deviennent une figure de plus en plus massive, en fait, dans ces territoires-là. Donc la figure du dit cas social est omniprésente, et on m'a souvent répété dans l'enquête que celui qui ne travaille pas ne vaut rien. Donc à mesure que le travail se raréfie, en fait, il devient une forme de figure de valorisation symbolique pour celui qui en a. Et se dire contre l'assistanat, contre les cassos, comme on dit, ben c'est aussi se mettre du côté des personnes respectables. Moi, je parle beaucoup dans le livre de cette quête de respectabilité, d'avoir une bonne réputation, parce qu'on a toujours le souci d'être stigmatisé. Et toutes les conduites, elles sont orientées comme ça. Quand je vous disais auparavant qu'on préfère se réunir chez les uns les autres plutôt que d'aller au bistrot, c'est parce que les bistrots ne sont plus fréquentés dans certains villages que par des personnes elles-mêmes stigmatisées, donc on ne veut pas se mêler à eux, on ne veut pas marcher dans certaines rues de village parce qu'on se dit que les seuls qui marchent, c'est ceux qui n'ont pas le permis de conduire, donc qui n'ont pas de travail, donc qui sont oisifs, et on est assimilé à cette figure-là. Donc voilà, la politique, en fait, elle est présente dans plein de petits... dans des modes de mise à distance entre semblables, et il suffit après d'arriver à la retroduire sur des échelles plus larges. Il y avait une forme comme ça de conscience qui apparaissait parmi les enquêtés, c'était de ne plus dire nous, simplement nous les ouvriers, comme chez Hogarth, le nous eux il n'était plus très présent sous cette forme là mais c'était un nous finalement plus conflictuel, plus sélectif. On disait qu'on faisait le tri entre les vrais potes et les autres de l'interconnaissance qui possiblement pouvaient nuire à la réputation. Et donc on disait déjà nous d'abord. Et c'était un déjà nous qui était valorisant. On pouvait tout à fait nommer les personnes avec qui on était alliés, ceux avec qui on partageait des combines, ceux grâce à qui on avait trouvé un travail, on avait refait sa maison, donc il y avait une forte conscience collective. Et dans le même temps, ce déjà nous, il était éminemment conflictuel, et on voit bien les résonances politiques que ça peut avoir aussi avec des slogans du type les Français d'abord, même si je montre dans le livre, ça je ne vais pas développer, mais que
il y a aussi des histoires d'immigration.
Il y a beaucoup de paradoxes. Ceux qu'on appelle les petits blancs, ils sont pas tous blancs. Il y a beaucoup d'immigrés, notamment nord-africains, d'enfants d'immigrés nord-africains qui font partie des groupes d'amis que j'observe et qui sont désignés comme nous souvent, et ça peut être très paradoxal parce qu'on a des personnes qui vont se revendiquer voter pour Le Pen, et à la fois leurs meilleurs amis sont issus de l'immigration et me disent « mais lui, je ferais n'importe quoi pour lui ». Et dans le même temps, c'est vrai que quand il y a conflit, là, le racisme peut ressurgir. Mais de la même manière que quand il y a conflit entre les 10 petits blancs, les inimitiés peuvent être très fortes et très dures aussi.
On a commencé avec le mouvement des Gilets jaunes qui est venu en quelque sorte couronner vos années d'enquête, Benoît Coquart. On peut y revenir un instant parce que ce que vous disiez à propos de la relation au travail comme respectabilité, peut-être nous donne un indice pour comprendre ce qui m'est resté l'un des plus grands mystères de ce mouvement des Gilets jaunes, qui est l'absence de la thématique du chômage sur les ronds-points. On a très peu entendu les Gilets jaunes parler du chômage comme d'une cause, c'est-à-dire que, alors qu'on sait bien que c'est l'une des causes au sens cette fois de causalité d'un mouvement social comme celui-là, mais ce n'était pas devenu une cause politique. Est-ce que tout simplement c'est parce que c'est difficile de parler de chômage, de l'importance du chômage, sans risquer de perdre une forme de respectabilité politique?
Oui, tout à fait. Vous avez quasiment répondu à la question. C'est exactement ça. Il y a une stigmatisation de la figure de celui qui ne travaille pas ne vaut rien. C'est vraiment l'expression qui revenait. Et d'emblée, chez le premier jour chez les Gilets jaunes, les deux premières personnes à qui je parle, c'est deux femmes qui me disent on n'est pas là pour réclamer. On n'est pas du genre à réclamer. jamais. Alors même que juste après, on va me parler des conditions de travail terribles dans les entrepôts, où en fait, on me fait comprendre que ce qu'on peut plus faire au travail, eh ben au moins, on peut le revendiquer ici. Et c'est aussi pour ça un des succès du mouvement, c'est qu'il a su contourner des sphères du travail dans lesquelles on ne parvient plus à se mobiliser, et qui par ailleurs, la difficulté à parler du chômage, c'est la même que celle à parler du travail en tant que tel. Par exemple, je parlais des solidarités dans les groupes d'amis, tout le monde se connaît, on connaît très bien sa vie intime, etc. Mais on parle peu de ses conditions de travail, parce que le travail est très individualisé, et on n'est plus dans les grandes entreprises à travailler tous ensemble, on est chacun dans des boîtes, on dit qu'on travaille chez un tel ou un tel, on se sent gratifié du patron qui a donné une bonne place, mais on remet peu en cause en fait les conditions de travail, parce qu'on sait que les places sont chères. Et de la même manière, la figure du chômeur, elle fait épouvantail en fait. Donc on préfère la contourner, c'est pas là-dessus qu'on va se baser pour former un mouvement social d'emblée. On va plutôt essayer d'avoir un mouvement de fierté et de dire qu'on vaut quand même quelque chose. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage formellement, et parmi les gilets jaunes et parmi les ruraux tout court, mais qui travaillent beaucoup sur le marché noir, enfin au noir, etc., qui font des activités mais qui sont pas reconnues comme telles. Je pense notamment aux femmes, mais il y a d'autres activités aussi qui sont pas juste déclarées comme de l'emploi. Donc ça contrecarre un petit peu l'image que les gens veulent donner d'eux-mêmes, et on les comprend, puisque vu d'en haut, le chômage est aussi lui-même très stigmatisé.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'effet politique, de la socialisation politique qu'aura été ce mouvement? Est-ce que ça peut laisser des traces durables parmi ceux que vous avez rencontrés pour cette enquête?
Alors ça, moi, je peux pas m'exprimer là-dessus sur les effets propres du mouvement. Je pense qu'il y a des bonnes enquêtes qui sont en train d'être faites. Vraiment, moi, j'ai plutôt voulu saisir, en fait, dans le livre, les sous-bassements. Et pour moi, les gilets jaunes, c'est la partie immergée de l'iceberg. Simplement, il me semble que les consciences politiques, elles évoluent beaucoup selon les personnes que l'on fréquente et selon les alliances que l'on peut tisser. Et en fait, il faut toujours se méfier d'une projection un peu intellectualiste, un peu idéologue, finalement, en retraduisant les discours des classes populaires comme des programmes politiques établis à jamais. En fait, ça bouge beaucoup. Et ces personnes-là qui pouvaient se revendiquer pro-Le Pen, etc., ils me disent aussi, quand je les interroge, moi j'incarne en fait la figure de celui qui n'est pas de ce bord politique, et je leur dis, mais pourquoi? Ils me disent, c'est quand même la seule à dire que ça pète un peu de partout. C'est la seule en fait qui fait encore référence, selon eux, à une vision concurrentielle et conflictuelle du monde, telle qu'ils la vivent localement. Et on peut s'imaginer qu'il y a quelques années, quelques décennies auparavant, cette vision conflictuelle du monde, elle était captée par des partis de gauche qui avaient un discours en termes de classe sociale et de lutte des classes sociales entre elles. Et en fait, il y a peut-être pas grand-chose qui a changé vis-à-vis de la vision du monde des ouvriers et des employés, simplement on leur propose peut-être pas les mêmes registres d'expression.
Alors de la France périphérique de ceux qui restent que vous avez étudié, Benoît Coquart, on passera à une autre France périphérique, parce qu'il y en a beaucoup des France périphériques. C'est la France périphérique de ceux qui arrivent, non pas de ceux qui restent, avec Julia Deck à propos de son roman Propriété privée. Mais avant ça, un extrait du nouvel album de Kim Gordon, Sketch Artist.
Sketch artist, sketch artist. No wind chimes strike, your dead stare strikes, and the wind chimes strikes, like an omen in the day, in the sunlight, dreaming in its head. Is objection affecting me? No wind chimes strike, your dead stare strikes, and the wind chimes strikes, and your dead stare strikes.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
On parlait dans la première partie de cette émission de « Ceux qui restent », c'est le titre du livre de Benoît Coquart. On va parler maintenant d'une autre France périphérique, de ceux qui arrivent, Julia Deck, en quelque sorte, puisque vous nous raconter l'arrivée d'un couple dans une autre France périphérique, celle qui se situe non pas dans des campagnes en déclin, mais au fin fond du bout des lignes de RER de la région parisienne, dans ce périurbain, comme on dit aujourd'hui. Et là, il s'agit d'un couple qui s'installe dans un pavillon, dans une maison, aux côtés d'autres qui ont la même caractéristique, de venir s'installer. Donc au fond, ce sont deux situations parfaitement contraires avec celle qu'a étudié Benoît Coquart, où lui s'est intéressé à des gens qui sont là, leurs familles sont là, ils ont décidé de pas bouger. Vous, c'est le mouvement inverse. Et pourtant, ce vocable de France périphérique nous permettrait, selon certains, de parler des uns et des autres, tous ensemble, parce qu'ils n'habiteraient pas le centre des grandes villes. Donc j'ai voulu jouer sur ce contraste dans cette émission aujourd'hui.
Mais oui, à vrai dire, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que a priori les deux populations sont très différentes. Comme vous le dites, c'est des gens qui choisissent de partir pour s'installer en grande banlieue parisienne. Et puis c'est des gens des classes moyennes, voire classes moyennes supérieures, oui. Profession intellectuelle.
Ils ont une grande bibliothèque, par exemple.
Ils ont une grande bibliothèque. Ils sont définis dès le départ.
Donc presque que ça, d'ailleurs, comme carton. Mais
ils sont pas très matérialistes en dehors de ce désir d'accéder à la propriété privée. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans chacun de ces microcosmes, j'ai retrouvé des mécanismes très très similaires sur la manière de créer sa propre norme, de vivre entre soi, de pas pouvoir tolérer le conflit, de vouloir absolument se conformer à ce qui est considéré comme les loisirs acceptables, les relations acceptables, les modèles familiaux acceptables. Voilà, donc finalement, il y avait des échos très constamment.
Comment vous avez procédé? Vous le disiez, c'est pas une enquête, c'est un roman. Mais comment vous êtes documenté sur cette réalité sociale?
C'est une question qui me préoccupe depuis longtemps, cette idée de partir de la ville. Je pense que, comme beaucoup de Parisiens, je me pose de plus en plus cette question ces dernières années, parce que la ville est devenue invivable, parce que trop chère d'abord, et puis trop polluée, et puis les transports, enfin bon, voilà, c'est devenu une ville où il est... Enfin, je peux témoigner du fait qu'elle est moins agréable, il est moins agréable d'y vivre, parce que j'y vis depuis 45 ans. Donc on se pose la question de partir, c'est un choix un peu par défaut, parce qu'il y a cette notion, il me semble, en France, la banlieue est pas un lieu qui est perçu comme désirable de prime abord, contrairement aux États-Unis où le mode de vie périurbain, voilà, on travaille en centre-ville, et puis on a une belle maison et tout le confort qui va avec assez loin. Mais en France, c'est plutôt, on va en banlieue, on l'assume pas toujours très bien publiquement, et puis on y va parce que
voilà,
on n'a plus le choix. Donc je me suis posé cette question, et puis j'ai fréquenté pas mal de territoires limitrophes de Paris. J'ai vu ces banlieues qu'on dit maintenant gentrifiées. Il y en a plein. Donc j'ai choisi de situer mon livre dans un écoquartier anonyme, parce que je me suis dit, finalement, il s'agissait pas de parler d'un endroit, il s'agissait de parler de ce mouvement en général. Et puis je me suis aperçue que les projets se recoupaient énormément. Un écoquartier, finalement, égale un autre. C'est tous les mêmes pavillons avec des panneaux solaires et des composts au bout de l'impasse. Et puis depuis que le livre est sorti, on me fait beaucoup de retours sur des endroits qui ne sont pas nécessairement proches de Paris. Mais c'est vrai qu'il y a cette tendance à développer de nouvelles villes de cette façon-là.
Alors, ça aurait pu être une troisième France périphérique, Benoît Coquart, au fond, celle qu'on retrouve par exemple dans l'enquête de Anne Lambert sur l'habitat pavillonnaire, qui est assez carcéral pour les femmes en particulier, parce que en général elles doivent quitter leur travail, il y a qu'une voiture pour le couple, et elles se retrouvent dans des belles maisons, mais un peu prisonnières de ces belles maisons, c'est ce que montrait Anne Lambert. Donc on aurait là une troisième France périphérique. En fait, on s'aperçoit qu'on peut les multiplier, ces situations.
Oui, il y a des centaines de situations, même à l'échelle d'un même département, on retrouve des inégalités entre des cantons qui sont assez énormes. Si on prend juste, par exemple, la distance vis-à-vis du lieu de travail, on se rend compte qu'il y a des ruraux qui peuvent encore, dans certaines régions, tout faire à vélo ou profiter de l'influence des grandes villes proches. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a du monde qui y va, qui achète des maisons. Et puis, il y a d'autres parties où c'est ce que l'on décrit aussi dans le périurbain, c'est-à-dire que les centres-villes se dépeuplent, on construit des pavillons aux alentours autour des centres-bourgs, parce que c'est des espaces qui sont devenus quasiment repoussoirs. Il n'y a plus de magasins, l'habitat est délabré, et donc on fait construire plutôt avec l'aide de ses amis, parce qu'on sait construire des maisons soi-même, et on accède à la propriété pavillonnaire, qui est vraiment une injonction aussi, même pour les gens s'endettent beaucoup encore pour ça, notamment les jeunes ménages, et on habite de plus en plus loin finalement des espaces où on est censé aller tous les jours, le travail, l'école, tout se délocalise, et c'est ça aussi qui fait que on est dans des espaces où l'interconnaissance peut paraître pesante, parce qu'on est, si on a de moins en moins les possibilités de se déplacer, finalement on est ramené à ceux qui habitent en face de chez soi. Et je pense que c'est un bon point commun. Et puis moi aussi, ce qui m'a plu, c'est l'anonymat de... Le côté, voilà, les écoquartiers, ils se ressemblent tous, on pourrait en trouver beaucoup, et je pense que c'est une démarche nécessaire pour ouvrir un peu le champ d'analyse, de la même manière que la sociologie rurale, les études localisées, il faut insister à la fois sur la spécificité des espaces sociaux, locaux, localisés, mais en même temps, il faut faire comprendre que des cantons des peuplés du Grand Est, il y en a plein d'autres dans les pays occidentaux, et qu'on peut retrouver ces situations-là un peu partout, plutôt que de jouer sur les particularismes locaux. J'ai bien aimé ça.
Il y a une chose qui est très différente dans votre roman, Julia Deck, c'est que, en fait, le voisinage, les relations de sociabilité entre les voisins, elles sont par définition nouvelles. C'est table rase pour tout le monde, au fond. Et c'est très différent des sociabilités héritées, de ceux que décrit Benoît Coquart, qui sont allés à l'école ensemble, qui doivent ensuite faire l'expérience des concurrences matrimoniales sur le marché de l'emploi, etc. Là, c'est autre chose, mais on s'aperçoit qu'il y a des tensions, et votre roman porte beaucoup sur ces relations entre ses voisins.
Oui, c'est nouveau pour tout le monde, parce que tout le monde a acheté sur plan et tout le monde se retrouve soudainement obligé de faire communauté. Alors ça part sur un ensemble de valeurs communes sur le papier, en tout cas des valeurs écologiques.
Le recyclage, l'eau chaude, ça marche pas,
mais théoriquement ça devrait marcher, la réutilisation, la récupération
des eaux usées pour chauffer,
pour produire de la chaleur. Donc sur le papier, ils devraient à peu près bien s'entendre, mais le problème c'est qu'à partir du moment où ils accèdent à la troisième dimension en l'emménageant, il y a une grande différence avec le rêve qui a été longtemps projeté. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est cette nécessité, à partir du moment où on est dans un microcosme où tout le monde se voit, tout le monde s'entend, il y a une... transparence est obligatoire, qui fait qu'on est obligé de créer sa norme tout de suite. Donc il y a une normalisation des rapports sociaux tout de suite. Et ça se passe pas très très bien, parce que le couple principal... c'est la femme du couple qui rapporte, la narratrice, qui raconte tout cet emménagement et puis les conflits qui vont naître et qui vont s'exacerber. Eux, ils supportent pas bien la pression de la norme. Ils ont été un peu induits en erreur. Ils vivaient dans ce rêve de Parisien qui consiste à penser que parce qu'on va au vert ou à la campagne, on va forcément trouver le calme. Or, pas du tout. Enfin, les habitations sont beaucoup plus rapprochées. Il y a moins de monde, il y a moins de densité, mais on se connaît tous. Et la moindre intrusion devient insupportable, alors que tout était noyé dans l'anonymat de la ville.
L'ironie de l'histoire, c'est que votre narratrice, elle s'occupe d'urbanisme en plus. Elle s'occupe de réaménager des endroits qui ont connu des histoires compliquées, comme par exemple la place des Fêtes du 19e arrondissement de Paris, Julia Deck.
Oui, mais c'est un paradoxe que j'ai cru observer chez certains urbanistes ou architectes qui ont toujours des projets grandioses et utopiques pour les autres, mais n'ont pas toujours forcément envie d'habiter dans les tours d'habitation qu'ils conçoivent pour résoudre les problèmes de densité. À vrai dire, je m'intéresse beaucoup aux questions d'urbanisme, donc il n'était pas tant question de stigmatiser ça que J'ai découvert qu'en écrivant des romans, on pouvait être plein de gens. On pouvait endosser tour à tour les rôles de plein de personnes, avoir l'impression d'exercer leur profession pendant les années que dure l'écriture. Et donc j'avais très très envie d'être urbaniste. Ma narratrice est urbaniste.
Et comment ça se passe quand on est sociologue et qu'on rencontre ces enquêtés, quand en plus on les connaît, on a aussi cette empathie avec ceux qu'on rencontre?
Oui, bien sûr, on est surtout quand on a un peu une histoire commune ou quelque chose à avoir en commun. Puis je pense que de toute façon, il faut avoir, surtout quand on fait une enquête ethnographique, arriver à créer des formes d'affinité pour au moins trouver l'énergie de s'investir sur le terrain. Et voilà, mais je rebondis sur ce que vous venez de dire, parce que ça m'a le fait que cette femme ne veuille pas être réputée, ne veuille pas être connue dans cette rue, moi ça m'a complètement frappé, et qu'elle veuille retourner à Paris. Moi j'ai rencontré des gens pendant des années qui me disaient que Paris, jamais de la vie, c'était la figure repoussoire, parce que ils disaient personne te connaît, tu sais pas sur qui t'as affaire, si demain t'as quelque chose, personne viendra t'aider. Et en fait elle a ses certifications, elle est diplômée, elle est reconnue, elle gagne bien sa vie, elle a pas besoin de la réputation de la rue pour savoir qu'elle est quelqu'un de respectable. Alors que quand on va à l'autre bout de l'espace social, là justement on se base complètement sur l'interconnaissance, sur la réputation, et on veut que les gens nous connaissent et parlent de nous en bien. Et j'ai l'impression que là on a un miroir en fait entre ces deux mondes là qui est vraiment assez parlant.
La grande ville et l'anonymat, ça fait écho aussi à l'émission récente qu'on a fait avec Richard Sennett sur ces questions de ville et d'urbanisme. Alors c'est plus facile pour vous, Julia Deck, parce que ce ne sont que des personnages et vous n'avez pas à vous poser la question de savoir comment ces gens vont recevoir votre livre, ce qui peut intéresser Benoît Coquart. Vous pouvez vous inventer pour la suite dans de tout autres espaces sociaux.
Oui, enfin, on rencontre quand même ses lecteurs.
Et certains qui se reconnaissent.
Il y a toujours des gens qui se reconnaissent. Mais alors, c'est assez curieux parce que c'est parfois pas les gens dont on imaginait qu'ils pouvaient se reconnaître. Il y a des gens qui se reconnaissent dans des personnages absolument improbables. Donc ça, on peut pas. Il faut se dire que c'est comme ça. On peut pas écrire en pensant en permanence. Bien sûr qu'on s'inspire de la vie quotidienne, de ce qu'on lit dans le journal, de ce qu'on a soi-même vécu. Mais si on se préoccupe de ça en permanence, oui, il y a pas de fiction possible.
Benoît Coquart, vous, votre livre commence d'être lu dans ces campagnes.
Mmh. Oui, et pour l'instant, je pense que les premiers retours que j'ai sont très chaleureux, donc j'en suis très content, parce que je pense que c'est toujours compliqué à partir du moment où on s'arme en fait des catégories d'analyse, notamment des sciences sociales, de la sociologie. C'est des catégories englobantes, lointaines, parfois un peu vides. Il faut les remplir d'empirie, de quelque chose, pour que ça corresponde, que ça retraduise le vécu des personnes et qu'elles s'y reconnaissent. Et moi je suis même assez flatté pour rebondir quand des personnes croient se reconnaître alors qu'on parle pas d'elles. Je pense qu'on touche à quelque chose qui du coup est plus général et dépasse en fait ce qu'on vient d'écrire, et ça à mon avis c'est la preuve qu'on n'a pas complètement raté ce qu'on avait fait.
Voilà une puissance commune de la fiction et de la sociologie pour rendre compte du monde et de ses complexités. Merci Julia Deck, merci Benoît Coquart.
Merci.
Je rappelle le titre du livre de Benoît Coquart, Ce qui reste, il paraît aux éditions La Découverte, et celui de le roman de Julia Deck, Propriété privée, paraît aux éditions De Minuit. Et vous retrouvez toutes ces références sur la page de La Suite dans les idées sur le site de France Culture, où vous pouvez également réécouter l'émission et vous abonner au podcast. Voilà, c'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmont, attaché de production Marie Dalquier, à la technique aujourd'hui Antoine Espel, et à la réalisation Marie Placé. C'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.